Merci pour l'invitation, Florence, pour parler lors de cette conférence où je vais essayer de proposer une lecture peut-être un peu décalée, un pas de côté politique sur la question de savoir si l'état d'urgence est une mesure efficace, comme le disait Joël, pour répondre au terrorisme et surtout à la double menace contre laquelle il s'est créé. Alors moi, pour quelques mots de là où je parle, je termine une thèse en sciences politiques qui m'a amenée dans des zones proches de zones de conflit où opèrent des groupes qui se revendiquent de l'islam radical, et ça m'a permis de prendre conscience qu'en fait l'islamisme radical est incroyablement divers et qu'il est parfois difficile de s'y retrouver puisque les demandes sont principalement locales et non pas globales comme on tend à le dire aujourd'hui. Alors, je fais partie d'un collectif qui a été abordé rapidement, qui s'appelle le Cortex, collectif transdisciplinaire, esprit critique et science. Un nom compliqué pour dire qu'en fait, on est des enseignants du secondaire et universitaires qui ont en commun d'enseigner la pensée critique. Et on a quatre pôles, Grenoble, Chambéry, Marseille et Montpellier. Alors, s'il y a des questions sur le Cortex, je pourrais y répondre aussi dans la mesure de mes connaissances. Alors, la commande qui m'a été donnée pour mon intervention, c'est la question de savoir si l'état d'urgence est une réponse au danger terroriste. Alors le problème du terme terroriste tout de suite, c'est que c'est plus un label politique qu'un concept qui est très opérant. Il suffit de regarder en fait la façon dont les groupes entrent et sortent de la liste noire des groupes terroristes pour comprendre qu'on est plutôt face à une qualification en termes de amis-ennemis, quoi. Nos alliés sont des résistants et nos ennemis sont des terroristes. La menace pour laquelle l'état d'urgence a été invoqué, en fait, elle est double quand on essaye de lire entre les lignes des décisions politiques du gouvernement actuel. Elle vise d'abord à mettre un terme, et le président François Hollande a été très explicite sur cette question, l'état d'urgence est justifié par la volonté d'anéantir la présence de l'État islamique dans le territoire irakien et syrien. Donc c'est d'abord un foyer d'instabilité extérieure. Et j'essaierai en fait, en retraçant l'histoire de ce groupe, de soumettre à votre réflexion si, avec ce qu'on sait de ce groupe, c'est un groupe qui peut être rapidement détruit ou si, en fait, on s'engage en prolongeant l'état d'urgence dans un état de guerre qui serait permanent. Et la deuxième menace, dont on parle assez peu, c'est une menace interne que plusieurs commentateurs politiques ont l'air de découvrir, c'est-à-dire celle de la radicalisation de notre jeunesse, enfin d'un certain nombre de jeunes français. Et là aussi, quand on prend un pas de côté et qu'on regarde les facteurs de la radicalisation, on se rend bien compte que la façon dont l'état d'urgence est mis en place aujourd'hui ne vise qu'à mettre de l'huile sur le feu, si tant est qu'on souhaite arrêter la radicalisation des jeunes avec l'état d'urgence. Alors, je ne vais pas revenir pour dire quelques mots rapides sur l'origine de l'état d'urgence qui a déjà été évoqué. L'état d'urgence est très lié en fait aux guerres de décolonisation, c'est-à-dire ces guerres qui sont qualifiées de guerres asymétriques, où vous avez un état constitué, une armée constituée, qui s'oppose à un groupe au contour un peu flou, c'est-à-dire un groupe qui revendique à la fois un statut territorial, c'est les guerres de décolonisation, on va dire, initiales, et qui peu à peu en viennent à revendiquer une idéologie et des valeurs. Alors ce qui est intéressant dans le cas de l'état d'urgence en France, c'est qu'il a une longue histoire pendant la guerre de libération de l'Algérie, notamment pour se défendre contre la menace posée par le Front de Libération Nationale algérien. Mais il sera en fait utilisé à chaque fois que les territoires d'outre-mer, notamment, sont un peu remuants. Alors, un des cas classiques qui a donné lieu à de nombreux films, ça a été la Nouvelle-Calédonie en 1984, c'est-à-dire où les peuples Kanak demandent des mesures, en fait plus d'autonomie, et du coup on va y répondre par l'état d'urgence. Il y aura toutefois un glissement en 2005 qui préfigure la situation qu'on voit aujourd'hui, hein, qui n'est pas nouvelle, qui s'inscrit dans l'évolution des choses. C'est que l'état d'urgence, et on tend à l'oublier, a été mis en place pour répondre aux émeutes des banlieues en France en 2005. Et c'est la première fois qu'on le met en place pour combattre un ennemi qui est plutôt un ennemi intérieur cette fois. Le débat sur sa constitutionnalisation, et je parle sur le contrôle des juristes, n'est pas nouveau non plus. Et il s'est posé à plusieurs reprises. Et l'objectif, du coup, c'est de mettre en place le maximum des moyens nécessaires pour mettre fin à une menace qui est conçue comme de courte durée, en fait, ou qui peut être atténuée ou au moins anéantie dans la courte durée. Or, le propre des guerres asymétriques, je crois qu'il faut le rappeler, c'est en fait, elles fonctionnent sur un mode de conflit qui est particulier, puisqu'il y a un acteur fort, un État qui a la puissance militaire établie, et un acteur qui dispose, alors on qualifie de moyens de lutte non conventionnels, mais en fait de moyens d'action militaire qui sont bien plus faibles. Et du coup, l'objectif, c'est de mener une guerre à la fois sur le plan physique de l'affrontement, mais sur le plan symbolique. C'est-à-dire, il faut éclairer à chaque fois la vulnérabilité de l'État qu'on a face à soi. Donc, l'objectif, c'est de mener de petites attaques, mais sur des cibles hautement stratégiques, et d'inspirer la peur, ou en tout cas de montrer que tout État, tout puissant qu'il est, n'est pas invulnérable. L'état d'urgence aussi, sur le plan politique, il correspond à une période qui s'inscrit dans le temps long, et je crois qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'aboutissement qu'un état exceptionnel, c'est une euphémisation générale des opérations de police qui sont menées par un certain nombre d'États, puisque l'état d'urgence a, le propre de l'état d'urgence, c'est en fait de qualifier les opérations menées d'opérations principalement de police, et non de guerre interétatique, et du coup un certain nombre de droits tend à disparaître et à ne plus s'appliquer. Alors on a des États, hein, si on regarde un peu au-delà de la France, on a des États où l'état d'urgence a été appliqué de façon extrêmement longue, et ce sont des États qui ont vécu dans des moments de guerre permanente ou quasi permanente. Alors un exemple proche de nous, c'est l'Irlande du Nord. En Irlande du Nord, l'opposition au groupe indépendantiste qui mobilisait plutôt parmi les catholiques a été placée sous le registre de l'état d'urgence. Et je crois d'ailleurs qu'il y a toujours un couvre-feu en vigueur dans les rues de Belfast, donc on est toujours sur un état d'urgence qui tend à mettre du temps à disparaître. Et l'autre état où l'état d'urgence est instauré de façon longue et quasi permanente, c'est Israël, c'est-à-dire c'est un état qui vit sous la menace permanente d'un ennemi à la fois intérieur et extérieur. Voilà pour une remise en contexte, on va dire, de l'objectif de ce qu'était la mesure d'état d'urgence, en tout cas politique. Alors maintenant, est-ce que l'état d'urgence va permettre de mettre fin à l'instabilité que connaît le Moyen-Orient, alors plutôt dans sa zone, on va dire, Irak-Syrie, c'est-à-dire le territoire où est actif l'État islamique? Alors pour comprendre ça, il faut essayer de revenir un peu en arrière du pourquoi on est face à un État islamique aujourd'hui avec l'idéologie qui le caractérise. En fait, l'État islamique, il marque une double évolution, il est l'enfant de deux évolutions. D'abord, c'est l'échec d'un certain nombre d'idéologies révolutionnaires ou, on va dire, politiques au Moyen-Orient, notamment l'islamisme politique. Et j'expliquerai rapidement comment il est l'enfant très lointain de cette idéologie-là. Et puis, il est aussi, il marque l'échec d'un certain nombre de régimes très autoritaires qui ont régné en faisant dominer une minorité sur une majorité. Alors, pour le dire rapidement, l'islamisme radical dont on parle aujourd'hui largement a pour origine le fondamentalisme, c'est-à-dire l'idée qu'il faut revenir au fondement d'une religion ou d'un texte religieux. Sa politisation, elle est plutôt récente, en fait, elle date des années 20-30, et l'idée, c'est de faire face à une menace coloniale dans des pays qui sont encore soit des protectorats ou des territoires mandataires français ou britanniques, soit des colonies comme pouvait l'être l'Algérie. La revendication d'un État islamique, elle est aussi très ancienne pour le coup, puisqu'elle remonte au XXe siècle, où on a des premiers groupes qui souhaitent créer un ensemble politique qui regrouperait le territoire, les populations musulmanes dans le territoire historique du califat. L'idéologie de l'État islamique, elle est un peu la poursuite de ce fondamentalisme appliqué à la politique. En fait, l'objectif, c'est de revenir à une communauté originelle des croyants au moment, enfin, à la mort du prophète, il y a eu une brève, très brève période d'unité des populations de confession musulmane et d'exercice du pouvoir, qui est un pouvoir à la fois politique et religieux. Et c'est le califat, en fait, dont rêvent les militants et les dirigeants de l'État islamique. Ce califat rêvé, il a duré, en fait, un peu moins de 20 ans, puisque très vite, il va y avoir la prise de pouvoir d'un groupe politique particulier, les Omeyyades, qui va marquer, en fait, d'abord la rupture au sein de l'islam, puisque c'est là où les populations chiites vont s'opposer aux populations sunnites. Donc c'est d'abord un différent politique avant d'être un différent religieux. Et surtout, et c'est important pour comprendre ce que souhaite l'État islamique, ou en tout cas la mythologie politique qu'il mobilise, les Omeyyades vont commencer à scinder le territoire des croyants en créant un petit nombre d'émirats, enfin des pouvoirs décentralisés, et du coup, il y aura une unité un peu moins forte et une division territoriale plus prononcée sur ce continent. Ce sera aussi le moment, et là aussi ça c'est des événements auxquels fait référence l'État islamique, c'est le moment où les Omeyyades commencent à incorporer dans les territoires principalement musulmans soit des nouveaux convertis, soit des populations chrétiennes qui ont une présence assez forte. Les Omeyyades aussi sont critiqués, notamment par l'État islamique. Pourquoi ils sont perçus comme un point de rupture? C'est parce que ils vont créer des pouvoirs politiques et scinder le politique du religieux, et c'est là que va se mettre en place un certain nombre de régimes qui géreront la politique, on va dire un petit groupe de soit des familles régnantes, soit un petit groupe de personnes qui accèdent au pouvoir, et puis le religieux est plutôt confié à des docteurs de la loi, c'est-à-dire à des personnes spécialistes de la charia. Donc vous avez des systèmes politiques à deux têtes, une autorité religieuse et une autorité politique. Cette idéologie, elle va être minoritaire, enfin du moins moquée hein, par les musulmans comme quelque chose d'un peu fantasmé à l'époque des années 30-40. Et elle va être remplacée par une idéologie qui est plus marquée par la volonté de mettre en place un islam social, entre guillemets, c'est-à-dire d'appliquer la doctrine religieuse au principe de redistribution économique, c'est-à-dire appliquer le principe de justice sociale, puisque le Coran est le premier texte religieux à créer un impératif de don, c'est-à-dire la zakat, l'aumône obligatoire, un impératif de justice sociale, c'est-à-dire vous êtes prélevé, vous devez donner une partie de votre richesse pour les personnes de confession plus pauvre ou plus indigent. Donc ces groupes, je passe vite, je répondrai aux questions, ces écrits politiques vont se théoriser autour des années 40. Et là, on a une sociologie particulière des personnes qui écrivent ces textes-là. Ce sont des personnes très éduquées qui ont enseigné soit au territoire de la métropole de l'ancienne puissance coloniale, mais qui en tout cas ont une vision d'un État islamique qui est un État islamique sur le plan économique, c'est-à-dire une politique économique particulière, puisque l'islam interdit l'usure, donc il commence à être pensé la question de comment on fait un système bancaire en islam. Et puis ce sont des groupes, en tout cas les premiers écrits, tendent à refuser les pouvoirs en place et à dire aux communautés musulmanes, vous n'avez eu que la charia, alors que le texte religieux est beaucoup plus riche, que l'islam politique est un islam redistributif et de justice sociale. Donc le courant, la couleur fait résonance beaucoup avec les mouvements tiers-mondistes de l'époque, c'est-à-dire ces mouvements anticoloniaux basés sur une volonté de justice au sein de communautés qui ont été dominées par une puissance étrangère. Alors tout ça pour dire que les premiers groupes qui vont se constituer, alors on les connaît, on les a vus notamment en Égypte hein, suite au soulèvement des populations égyptiennes, ce sont les frères musulmans qui vont essaimer un peu partout, mais qui vont connaître un échec en fait patent, et l'État islamique est le symptôme de cet échec-là. C'est-à-dire qu'ils vont avoir beaucoup de mal à conquérir le pouvoir, puisqu'il n'y a pas d'élection, et ils ont un rapport à l'action violente qui est ambigu. C'est-à-dire, pour certains, ils ne sont pas partisans de la prise de pouvoir par les armes. Donc l'accès au pouvoir va être un peu compliqué, et ils vont être plutôt en sous-main, agissant dans les domaines d'action sociale, mettant en place des écoles, enfin, notamment en Égypte, on a pu les voir actifs. Dès qu'il y avait un séisme, l'État égyptien était un peu paralysé, et puis ceux qui distribuaient du secours, eh bien, c'était les frères musulmans. Cet échec de cette doctrine-là, cet échec de prise du pouvoir, va conduire d'autres auteurs à parler d'une nécessité de prise de pouvoir par la force. C'est le début, si vous voulez, de la radicalisation, si on entend la défense de l'action violente, par les groupes islamistes. C'est-à-dire, petit à petit, on a une nouvelle génération qui arrive, qui est une génération qui a grandi dans des pays indépendants, qui sont des grands déçus de la modernité, c'est-à-dire ce que promettaient, y compris hein, les premiers penseurs islamistes, cette idée d'un islam moderne ou d'un État moderne. Ça va être des grands déçus de ce programme-là, puisque modernisation, il n'y a plutôt pas eu, il y a eu captation des richesses par une élite dirigeante et une grosse paupérisation des sociétés musulmanes dans des pays qui vont, on va dire, du Maghreb au Proche-Orient. Ensuite, l'échec, il s'explique aussi, et c'est important pour comprendre pourquoi l'État islamique défend ce qu'il défend aujourd'hui, c'est que l'islamisme veut parler pour tous les croyants musulmans, mais se heurte au fait qu'il y a des frontières nationales avec la réalité d'un Marocain, d'un Algérien ou d'un Syrien n'est pas celle en fait de ses voisins. Donc on va y avoir une vraie difficulté de dire est-ce qu'on fait la révolution mondiale ou est-ce qu'on reste dans des logiques plutôt nationalistes. La seule idéologie révolutionnaire islamiste qui va connaître un succès, c'est la doctrine chiite, c'est-à-dire celle de la République iranienne, qui, au moment de la révolution islamique, va exporter en finançant massivement un certain nombre de groupes. Alors, ça, c'est le premier facteur, et j'essaye d'être rapide, c'est le premier facteur qui explique, en fait, ce mouvement d'échec et de ces idéologies-là, pourquoi on se retrouve face à un retour, en fait, du fondamentalisme religieux et d'une communauté un peu mythifiée. L'autre enjeu, il est très politique, en fait. Dans un certain nombre de pays, notamment en Irak et en Syrie, l'invasion de l'Irak en 2003, qui constitue l'acte de naissance de l'État islamique, on oublie, hein, on pense qu'il date de 2008, mais en fait, il se crée en 2003, et il s'oppose en fait à une minorité que les États-Unis ont mis au pouvoir, c'est la minorité chiite. Donc ils ont leur cible principale, c'est bien, dans l'islam, la population chiite. En Syrie, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire que la minorité alaouite qui règne aux dépens d'une majorité qui est sunnite. Donc l'État islamique capitalise ces deux choses-là. L'idée d'idéologie en panne et puis l'idée d'une population qui se sent humiliée depuis un certain nombre d'années. Alors que veut l'État islamique? Je ne sais pas si la question est bien posée. Enfin, quelle est leur stratégie? Alors la stratégie, elle est parfois visible et parfois un peu compliqué à comprendre. En fait, l'État islamique va vivre de 2003 à 2007-2008 et au début, il s'affirme comme une branche d'Al-Qaïda, c'est-à-dire le réseau qui représente l'islam radical à l'époque. Et puis très tôt, il va y avoir une scission entre ces deux groupes qu'on retrouve aujourd'hui en fait, dans le conflit syrien, scission qui en fait, se fait sur la question de savoir est-ce qu'on crée un État musulman et du coup on nettoie, entre guillemets, l'État musulman et on donne le pouvoir principalement aux chiites, ou est-ce qu'on s'attaque d'abord aux États-Unis? Bon, bah, Al-Qaïda va choisir l'option 2 et l'État islamique va choisir l'option 1. Et en fait, ça va conduire à sa perte en 2007-2008. C'est-à-dire qu'il va avoir un moment de violence contre les chiites et puis il va disparaître pour revenir en fait récemment. Surtout parce que les régimes en place, eux, connaissent une perte de vitesse, c'est-à-dire s'effondrent, c'est le soulèvement en Syrie et qui rejoint l'Irak. L'État islamique a plutôt une stratégie, et là je vais vite, on pourra en rediscuter, hein, de consolidation territoriale, c'est-à-dire là il faut peut-être déconstruire un mythe, leur velléité d'expansion est plutôt limitée, mais en fait de façon purement réaliste, c'est que à chaque fois qu'ils essayent d'avancer, ils se retrouvent confrontés à des adversaires politiques extrêmement solides, c'est-à-dire les Kurdes, les milices du Hezbollah et de l'Iran, c'est-à-dire ils ont des vraies difficultés d'expansion et ça rend leur stratégie de conquête difficile. L'État islamique, c'est aussi un État qui, contrairement à ce que voulaient les premiers penseurs islamiques, a plutôt peu à offrir dans le sens où, même s'il a beaucoup d'argent, il faut plutôt l'utiliser dans l'effort guerrier. Les institutions qu'il met en place sont vraiment anachroniques. Hein. L'idée, c'est de revenir au premier califat. Donc, on est plutôt sur des institutions désuètes. Et il peine à mettre en place une stratégie de redistribution. Alors, vous avez peut-être suivi, face à aux difficultés financières, par exemple, il ne rémunérera plus les martyrs et les veuves et les enfants de martyrs. Et c'est comme ça, pourtant, qu'il s'assurait un certain soutien politique. En fait, l'État islamique comble plutôt un vide et incarne, en fait, l'humiliation qu'a vécu les sunnites dans un certain nombre de pays du monde, c'est-à-dire cette majorité qui, parce qu'elle était une majorité, n'a pas beaucoup ému l'Occident quand elle a fait face à des situations particulièrement dramatiques. Alors, par exemple, la situation en Syrie, le début du soulèvement en Syrie, il y a eu beaucoup de temps à réagir, ou au moins à avoir un peu d'émotion pour les populations sunnites qui étaient massacrées par Bachar el-Assad. Alors, l'effet de la violence sur l'État islamique, elle est nulle, voire contre-productive, c'est-à-dire l'idée de les bombarder en masse, en fait, ne vise qu'à consacrer le fait qu'il y a des puissances extérieures coloniales qui bombardent une majorité pour protéger une minorité qui est illégitime. En plus, la violence a un effet catalyseur assez fort sur le groupe, c'est-à-dire l'État islamique tient parce qu'il est en situation guerrière, c'est-à-dire son soutien populaire est beaucoup dû au fait que, en fait, c'est un rempart dans une situation difficile vis-à-vis de ses voisins et vis-à-vis des puissances environnantes. Donc une des solutions, ce serait, enfin, c'est pas mon idée, hein, c'est un certain nombre d'auteurs pointent le fait que c'est plutôt un processus de paix, en fait, inclusif, qui ferait que l'État islamique perdrait un peu, perdrait ses actions, son caractère violent. Pour terminer, et là j'en dis trois mots et on en discutera, je pense que c'est plutôt le cœur du sujet. L'autre vide que vient combler l'idéologie de l'État islamique, si tant est qu'elle existe véritablement, c'est un idéal révolutionnaire pour une série de jeunes, c'est-à-dire une idéologie, alors certains auteurs parlent d'idéologie de rechange, c'est-à-dire c'est sur le marché une idéologie qui mobilise. C'est-à-dire il y a une colère hein, forte de la plupart. Alors, des musulmans français, c'est évident quand on connaît la situation de discrimination dont ils sont victimes, mais aussi d'une série de jeunes qui a des demandes légitimes de changement de société ou de justice sociale et qui ne trouvent pas à s'exprimer en fait dans d'autres types de groupes ou dans d'autres types d'idéologies. Alors ce qu'on sait des moteurs de la radicalisation, des moteurs politiques, tend à dire qu'elles s'accroissent quand la personne en proie de se radicaliser, est victime d'une injustice et a la sensation qu'elle a un statut qui est particulièrement discriminé dans la société où elle vit. Et l'action violente est la figure du martyr. Un certain nombre d'écrits, notamment de personnes qui ont rencontré des militants d'Al-Qaïda ou de l'État islamique, tend à dire qu'ils ont un rôle persuasif extrêmement, extrêmement fort. Or, la façon dont l'état d'urgence cible, et là je reprends les propos de Joël, cible une part importante des musulmans français, tend à renforcer l'idée qu'il y a véritablement un rejet de ces populations en France et qu'ils sont ciblés particulièrement. Du coup, si l'état d'urgence visait à communautariser un peu plus les populations musulmanes, c'est réussi, mais il se trouve que, paradoxalement, c'est aussi l'objectif de l'État islamique. Donc on se demande la pertinence de cette mesure dans ce cadre-là. Alors tout ça pour dire que oui, je rejoins, on n'est pas dans une menace qui va disparaître du jour au lendemain, elle va s'inscrire dans le temps long et elle sanctionne un échec, en fait l'échec, ou plutôt elle sanctionne une évolution qui s'est amorcée dans le temps long, mais c'est une évolution vers un état de guerre permanent en fait, l'idée que pour assurer la sécurité des institutions, à la fois face à une menace intérieure, des demandes sociales intérieures, et face à un ennemi extérieur, il n'y aurait de solution que dans le renforcement sans cesse renouvelé d'une sécurité. Voilà. J'ai débordé massivement.
Merci Clara. Merci.